Vous êtes sur Distorsion 96 FM à Auch. Vous pouvez également nous écouter via le stream de notre site internet assodistorsion.fr. Aujourd'hui, Radio Distorsion est au lieu dit, je me souviens plus le nom,
Saint-Paul,
à côté de Jéguin. Et je reçois sur nos ondes le Skeleton Band. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour.
Alors, on va commencer le tour de table des présentations, prénom et instrument joué.
Alors, du coup, moi, c'est Bruno. Et je fais de la contrebasse et je chante un petit peu également.
Et moi, je m'appelle Alex. Je fais de la guitare, du banjo et je chante.
Et moi, c'est Clément. Je fais de la batterie, du vibraphone et du mélodica. Et alors, il y a une quatrième personne qui n'est pas là actuellement, mais elle est dans les parages. Marion qui nous a rejoint il y a 5 ans et qui fait du violon et qui chante. Voilà, ça c'est nous quatre. Et ce soir, il y a Flore qui fait le son pour nous aussi.
Qui est aussi avec nous, mais elle est un petit peu à part.
Voilà, elle lit des BD.
Mais c'est très bien de la présenter. Qui c'est qui peut me faire un petit historique du groupe ?
Et ben, je peux essayer de faire ça alors. Le Skeleton Band, ça a maintenant ça a environ 17-18 ans. C'est un groupe de Montpellier. On a commencé en faisant beaucoup de concerts un peu à droite à gauche, tout ça. Et en fait, à force de jouer, à force d'enregistrer des albums, ça nous a attiré encore plus de lieux où jouer, plus de réseaux, de gens avec qui on a fait des autres projets que juste des concerts ou des albums. On a pas mal bossé, je sais pas, par exemple avec des gens qui font du théâtre pour faire des bandes originales ou pour jouer sur scène. On a pas mal fait pour des musiques de films ou de séries, pour des podcasts, pour des trucs radio. Donc voilà, en fait, depuis toutes ces années, on a travaillé avec pas mal d'autres personnes en parallèle de en parallèle de la musique qu'on fait, des albums qu'on a sortis. Et là, on en est à notre sixième album qu'on vient de sortir. On l'a sorti le 13 septembre de cette année.
De l'année dernière.
Enfin, de l'année dernière, oui.
2024, ouais.
13 septembre 2024. Et voilà, l'album il s'appelle Outre-Rage. Voilà, en gros, pour la présentation. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un truc.
Très bien.
Oui, il trouve que c'est très bien.
Super.
Alors, la question que je me pose, moi, c'est... comment définir votre musique ? Parce que c'est quand même quelque chose de pas commun, je dirais. Pas de particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un style particulier qui définit votre musique. Vous mettrez quoi comme mot derrière votre musique ? Déjà que c'est pas facile de mettre des mots sur une musique.
Je crois que, en tout cas, ça fait 17 ans qu'on est confronté à cette question-là.
Vraiment. Ma question n'est pas originale du tout.
Non, mais après, ce qui est intéressant, je crois je pense qu'en effet, c'est une musique qui est faite de beaucoup d'influences différentes. Et je pense qu'il y a peut-être ça d'original, qu'elle est difficile à, en effet, comme tu le nommes, à cerner en quelques mots très précis. On n'est pas dans un courant. Après, c'est quand même une formule de base assez rock, même dans l'instrumentation. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du post-rock dans la manière dont sont construites les chansons. Il y a souvent un peu ce qui a été nommé parfois de l'endroit aussi de la scène, de cet aspect un peu cabaret, je pense, dans l'endroit de l'expression des sentiments. À vrai dire, là, on vient de recevoir une nouvelle chronique du disque qui, finalement, je crois, tourne beaucoup autour de cette question-là, en fait, de qu'est-ce que c'est, comment on l'attrape. Et qu'en effet, je crois que c'est assez dur à décrire, et j'aimais bien en tout cas ce que cette chronique disait, dans le sens où après, en fait, au final, au bout d'un moment, on lâche un peu le fait qu'on n'arrive pas à l'écrire et on se laisse emporter par la musique. Mais après, sinon, on est passé par plein. Alex ayant une bonne mémoire, des fois, il y a eu plein de terminologies un peu. Je sais pas si tu en as quelques-unes.
Non, mais en vrai, je pense qu'il y a. Il y a un rapport au folk qui est évident parce que tous les instruments sont acoustiques, même s'ils passent par de très nombreux effets.
Oui, moi j'avais lu folk hypnotique, il disait.
Bah, parce qu'il y a un côté de trance, en tout cas dans le dernier disque, qui ressort un peu plus. Je crois que le fil rouge depuis le début, c'est l'étrangeté. On a toujours eu un rapport un peu, soit à des moments à l'expressionnisme, pour rendre plus un terme par rapport à de l'art plus pictural, à l'expressionnisme, au cabaret, puis après ça a été autre chose. Quand la découverte aussi du post-rock nous a fait travailler sur des choses beaucoup plus progressives, sur des formats de chansons qui sont beaucoup plus longues, et en même temps c'est pas du post-rock, c'est ça qui déstabilise, c'est parce que le post-rock y a pas de chant. Du coup, le fait qu'il y ait du chant, bah, c'est plus du post-rock, mais il y a quand même cette idée de progression, de différents univers. Certaines personnes ont pu dire que c'était très cinématographique, puisqu'il y a beaucoup d'ambiances qui sont posées. Mais c'est toujours dans l'idée de voyager sur des zones assez qu'on essaye de, on va dire, de visiter, mais qui ont un rapport avec le bizarre, avec l'étrange aussi, oui, tout simplement.
Oui, c'est une musique un petit peu envoûtante aussi sur certains côtés. On se fait attraper et puis amener. Enfin, moi, c'est l'impression que ça m'a donné. J'avais entendu parler du groupe. Moi, je suis effectivement issu d'une scène beaucoup plus rock, beaucoup plus dure quelque part, beaucoup plus métal même sur certains côtés. Donc, j'avais entendu parler de vous. J'avais même écouté un petit peu. Et là, je me suis penché un peu plus sur ce que vous avez fait depuis vos débuts et en préparant l'interview. Et j'ai été saisi de cette façon-là, quoi. Voilà. C'est ce que moi, il m'en ressort quand j'écoutais, j'ai fait waouh, c'est quoi ce truc au départ? Et puis après, je fais ah ouais, mais c'est intéressant, il y a des trucs, voilà.
Parce qu'il y a un esprit qui reste, comme disait Bruno, il y a un esprit qui a un rapport au rock et au punk dans l'idée il peut y avoir un rapport assez. Comment dire? C'est une musique qui va dans des endroits assez abrasifs aussi et assez rugueux. Et donc il y a ce rapport entre aussi dans l'énergie qui peut être punk, même si on joue pas du tout du punk. Et c'est pour ça aussi que des fois, les gens qui écoutent plus de les musiques extrêmes, tout ça, s'y retrouvent aussi. Parce que en termes émotionnels, on essaye d'y aller assez loin dans chaque émotion.
Après, pour en revenir aux fans de musique dite extrême, en général, c'est des gros fans de musique en général. Et ils écoutent des choses tellement diversifiées. Moi, je suis toujours étonné de ce que certaines personnes qui sont qualifiées, enfin, quand on les voit au niveau vestimentaire, on se dit, bon, eux, ils écoutent que du rock, machin, et puis en fait, non, ou que du métal, et en fait, ils écoutent plein de choses différentes. Et même, c'est les musiciens qui jouent des musiques des fois très extrêmes. Quand on leur demande ce qu'ils écoutent, c'est très, très éclectique ce qu'ils écoutent, quoi. Qui c'est qui compose dans le groupe où il y a quelqu'un qui amène une idée au départ et ça se développe après autour?
En général, je viens avec une base de morceaux, une trame, on peut appeler ça. En tout cas, pour ce qui concerne la composition, souvent les paroles sont écrites, oui, après sont peut-être des fois réinventées ou reconstruites à partir des répétitions. Et on coud là-dessus, on invente et. C'est possible que toutes les issues sont possibles. Ça peut être des morceaux qui ont beaucoup changé par rapport à la proposition initiale ou des choses qui sont plus proches. L'idée est que tout le monde ait quelque chose à défendre dans la chanson qu'on est en train de composer, que chacun et chacune puisse s'y retrouver. Du coup, voilà. Donc il y a juste une base, une trame, et puis après on modifie tout ça.
Pour le chant, ça se passe comment pour les textes? Parce que j'ai vu qu'il y avait du français. Alors ça, bon, ça c'est un peu évident, puisqu'on est quand même français. Mais après, il y a aussi de l'anglais et il y a du portugais, je crois.
Il y a eu du portugais sur le dernier disque, c'est de l'occitan.
De l'occitan.
Ouais.
Alors qui c'est qui écrit tout ça? Ou il y a diverses personnes qui s'occupent?
Non, les textes, c'est moi qui les écris. Et le fait qu'il y ait eu des. Qu'il y ait eu pas mal de langues différentes qui étaient expérimentées. Quand on était plus jeune, un des groupes qui à un moment a exercé une grande influence sur nous, c'était un groupe qui s'appelait The Dead Brothers, qui était à l'époque sur le label Voodoo Rhythm. Et il y avait déjà dans ce groupe, à l'époque où on faisait un peu aussi notre formation musicale de base, quand au tout début quand on faisait des groupes de musique, et cette chose-là a été importante parce que ça fait visiter, chaque fois qu'on utilise une langue différente, ça fait visiter aussi une énergie différente, même dans juste la façon dont les mots se posent sur la musique. Et puis, de manière plus personnelle, en ce qui me concerne, c'est de passer par les mots aussi étrangers, tout ça, et les autres aussi, m'ont aussi permis de revenir peu à peu et de réutiliser le français dans la musique comme si c'était de manière comme si c'était une langue qui était exotique aussi pour nous. Il fallait pouvoir se débarrasser des préjugés et pouvoir et avoir une langue musicale où on n'est pas forcément accroché au sens, et ça il a fallu d'abord aller loin pour pouvoir y revenir.
Sur scène tout à l'heure, j'ai vu que tu le disais, tu utilises un vibraphone et un mélodica en plus de ta batterie.
Oui.
Alors déjà, comment as-tu eu l'idée de cumuler tout ça? Et comment tu t'en sors pour arriver à jouer de tout ça en même temps, enfin presque en même temps?
Le vibraphone, je sais que ça... en tout cas, moi j'avais vu le groupe Y... un groupe joué à Montpellier et où ils jouaient avec il y avait deux batteries et chaque batterie avait ou un vibraphone et il me semble l'autre avait un xylophone, enfin en tout cas des instruments à lame comme ça qui étaient au-dessus de la batterie. Je me souviens que j'avais été inspiré de ça en fait, et après en fait pour le vibraphone mélangé à la batterie, c'est vraiment c'est des nappes quoi, c'est pas, je suis pas vibraphoniste, il y a pas 1000 notes, c'est vraiment pour en fait c'est un élément de percussion qui a en plus une touche mélodique que je peux accorder aux notes des autres quoi. Du coup voilà, il y a pas un truc de virtuose ou quoi, c'est vraiment pour c'est comme un élément de la batterie quoi, juste c'est percussif et voilà, juste il y a des notes qui sortent en plus quoi, et ça tombe super bien puisque je peux mettre ma grosse caisse en dessous et que ça fit parfaitement, donc ça c'est cool. Et le mélodica, en fait on l'utilisait en acoustique avant parce que c'est pratique et on l'utilisait un peu en acoustique, et là on a depuis deux albums maintenant on a la version qui passe électro-acoustique du coup, et moi j'ai des pédales à effet qu'on avait envie de tester. En fait on utilise pas mal on fait de plus en plus, en tout cas on travaille pas mal avec des trucs de bourdon, de sons un peu comme ça en fond, de notes qui se tiennent comme ça, et du coup le mélodica je l'utilise entre autres comme ça. Donc pareil, c'est vraiment de la matière quoi. En tout cas effectivement j'ai plein de petits trucs autour de la batterie et c'est pas pour faire beaucoup de coups avec, c'est plus pour faire rajouter de la matière, de la texture quoi.
Ouais. Oui, ça donne une ambiance aussi au morceau.
Ouais.
En plus d'avoir le côté percutif ouais, de tout ce qui va être grosse caisse, caisse claire, etc.
Il y a Marion qui fait son entrée. À pas feutrer.
Bonsoir.
Du coup, tu vas presque pouvoir te présenter toute seule, mais il a déjà fait tout à l'heure un petit peu.
Je sais pas comment faut se présenter. Je m'appelle Marion, je joue du violon.
Et voilà, c'est déjà très bien.
Cool.
Et donc tu as rejoint le groupe depuis 5 ans, il me disait.
5 ans, 4 ans, 5 ans, 4 ans. Ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Le confinement ça inspire visiblement.
Alors on le disait tout à l'heure, vous avez riche discographie, 6 albums, ça fait beaucoup. Le cinquième, Au Cavalier Seul, est paru le 15 mai 2020 en plein Covid. C'était pas trop top ça comme sortie d'album.
En effet, c'est un album qui, comme tout ce qui est un peu sorti à ce moment-là, qui a eu une existence un peu contrariée. Mais d'ailleurs ça c'est un peu quand Marion nous a rejoint, c'était justement un peu le moment où du coup on l'intégrait avec nous, on allait vers des nouvelles choses, mais quand même avec cette un moment on s'est quand même dit bon en fait on a très peu tourné ce disque et ça nous a un peu rattrapé, et en fait finalement la rencontre dans le travail avec Marion et l'intégration dans le groupe, ça a vraiment été plus sur la tournée de ce disque là finalement. Elle nous a un peu rejoint sur la, on a réorchestré la tournée avec elle Et on a tourné ce disque-là quand même jusqu'au moment où on a enregistré donc Outrage. Donc oui, voilà, il y a eu. C'est sûr que ça a été comme tout, oui, comme tout ce qui est un peu sorti à ce moment-là. Hein, évidemment, c'était très contrarié sur la question des tournées, quoi.
Oui, comme tous les groupes ont été pris dans cette espèce de néant artistique, comme on dira, au niveau de la scène. Hein.
C'est ça. Bah, c'est sûr que oui, sur les tournées, ça a été. On a essayé. Après, voilà, tout le monde regorgeait d'imagination pour voir comment on pouvait quand même faire des choses. Donc, au final, je suis en train d'essayer de me remémorer tout ça, mais on a quand même fait en vrai pas mal de choses par rapport aux possibilités qu'il y avait, quoi. Il fallait être un peu inventif.
Mais il y a une vidéo qui traîne sur YouTube du 17 juin 2020 au théâtre Jérôme Savary de Villeneuve-les-Maguelones. Vous avez quand même joué, je pense, cet album en entier sur scène ou quelque chose comme ça.
Eh ben, pour le coup, ça, c'est vraiment un truc très Covid. C'est qu'on a fait le concert en live stream.
Oui, c'est ça.
Exactement.
C'est pour ça que j'en parle, parce que vous avez eu l'occasion de le jouer.
C'est vrai qu'on a fait ça, moi. J'avais oublié.
YouTube, il se rappelle.
Voilà. ça nous est arrivé de jouer devant pas grand monde en tournée. Mais là, ouais, il y avait vraiment personne. Donc voilà, bah en fait plein de choses. On a toujours la même. Enfin, oui, en fait c'était un moment où à la fois on essayait de continuer à créer, à se retrouver, à faire des choses. Et puis après dès qu'il y a eu des moments où c'était possible d'essayer de retrouver le public, quoi, retrouver les gens. Donc après toutes les manières après étaient bonnes en tout cas pour essayer de tisser un lien quelconque, quoi.
Mais... Oui, puis après c'est reparti doucement, mais c'est reparti au niveau des concerts, voilà. Le suivant, notre Outrage, on le disait tout à l'heure, est paru en septembre 2024. Pourquoi l'appeler Outrage? Une raison à ça?
Oui, il y a une raison. Bon, ça. C'est un disque qui essaye de discuter de la rage et de ce qu'on peut en faire. Et donc de ce qu'on comment la possibilité, en tout cas la puissance de transformation, de métamorphose qui peut passer par la rage. Et c'est pour ça que ça s'appelle Outrage. Tout simplement.
Où c'est que vous l'avez enregistré, cet album?
On l'a enregistré à Zia Piari, qui est un studio qui est assez connu, en tout cas dans le milieu de tout ce qui est metal, hardcore, tout ça. C'est un studio qui est tenu par Amaury Sauvé et qui a enregistré pas mal de disques de Birds in Row, tout ça, ou de Ititanita, par exemple. Et c'est aussi une méthodologie, ce studio. C'est plein de choses différentes qui nous ont amenés là-bas. Et on voulait quelque chose de à la fois. On a toujours enregistré très fort, très proche du live, quand nos disques. Et en même temps, on voulait des techniques de production un peu plus élaborées que ce qu'on avait fait jusque-là. Parce que jusqu'à les albums d'avant, par exemple, on les avait enregistrés dans des studios qui sont vraiment des studios de garage rock et tout ça. Et on voulait quelque chose d'un peu plus moderne sur certaines choses. Et on est allé là-bas.
Armory, c'est un nom. Armory Sauvé, c'est un nom que je connais, moi, que je vois passer souvent, comme tu le disais. Je dis, ah tiens, il y a des noms comme ça qui reviennent souvent dans le rock et dans le métal. C'est important le choix d'un studio pour le résultat que l'on veut avoir.
Ouais, c'est super important. En fait, c'est un état d'esprit aussi qu'on choisit. Par exemple, on a enregistré les albums d'avant, on les avait enregistrés du coup avec Matt Bordin, qui est donc à ce Outside Inside Studio, qui est en Italie, qui a fait pas mal de trucs de Voodoo Rhythm et aussi de plein de choses comme ça, mais qui est un studio en analogique avec des bandes, tout ça. Ça imprime une direction très forte. Et là, en ce qui concerne le travail avec Amaury, ben, c'est un travail qui est très exigeant aussi où lui il a un vrai il prend une place de producteur. Donc en fait, par exemple, c'est un studio où on va faire des pré-prod sur place avant de revenir pour pouvoir débriefer sur les chansons, pour pouvoir réfléchir à ce qui peut être amélioré, pour sentir les faiblesses de ce qu'on a fait. Et ensuite, on retourne et on essaye d'améliorer ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, c'est un studio qui, où il a pas de... Tout a été... Il a appris aussi peu à peu, lui. Et en même temps, il y a un rapport aux techniques modernes de production et qui est beaucoup plus, on va dire, ouvert que dans les studios plus rock'n'roll. Donc on peut vraiment s'amuser à essayer de retoucher des choses, trafiquer le son plus que dans certaines... Donc ça aussi, c'est vraiment tout un univers qu'on choisit d'avoir à ce moment-là. Et tout en ayant la part qui est quand même importante, qui a un rapport très live. Parce que c'est vrai qu'un studio, où, par exemple, avec des cabines très propres, bah, ça peut sonner propre, mais ça peut être un problème que ça sonne propre. Ça dépend toujours de la musique qu'on veut faire. Le deuxième album qu'on a fait, La Mascarade, on l'a enregistré chez quelqu'un qui s'appelle Bob Drake, qui était pareil, où il y a beaucoup de groupes qui sont passés chez lui. C'est des albums que tout le monde n'aime pas parce que c'est très, très, très bruyant et sale comme type de musique, parce qu'on enregistre dans son salon et tout ça. Mais par contre, ça crée des ambiances et le goût de l'expérimentation qu'avait cette personne faisait que l'album était regorgé de détails sonores, de petites expérimentations sonores. C'était des albums très accidentés. Voilà, donc oui, ça change tout.
Et donc, c'est très important de choisir en fonction de ce que l'on veut au bout, quoi.
Je crois.
En tout cas, nous, quand on se dit qu'on va enregistrer un album, on réfléchit à ça. C'est un truc on écoute d'autres groupes, on regarde les gens qui ont produit, des groupes qu'on aime bien. On écoute le son, le mix de tel ou tel album. Et on choisit en fonction aussi de ça, quoi. Selon... l'énergie qu'on a envie d'amener ou les émotions qu'on a envie de transmettre dans l'album, on va choisir.
J'ai vu aussi que cet album est sorti sur deux labels, Urgence Disc Records et Araki Records, c'est ça, hein? Je ne me trompe pas. Et après, bon, c'est distribué par Inouï Distribution. Mais pourquoi avoir choisi deux labels?
Alors, je dirais même trois, à vrai dire. Sachant que du coup là c'est deux labels qui nous ont aidés, et après on a nous notre structure de production, mais qui est aussi notre label finalement principal, Ramin Bastring. À vrai dire, je crois pourquoi il y a plusieurs labels dessus. Alors je vais répondre à plusieurs choses. D'abord, nous en tout cas, il y a toujours eu un souhait très fort et une direction très forte d'indépendance. Et du coup, l'indépendance, elle passe quand même toujours par la question de gérer ses propres moyens de production. Donc ça a toujours été, dès le début, en tout cas, ce vers quoi on est allé. Donc c'est pour ça qu'on a toujours fait avec notre structure, en finançant nous-mêmes, etc. Après, évidemment, comme tout, et notamment dans les milieux indépendants, clairement on arrive à avoir un peu plus de force avec l'aide d'autres labels qui ont d'autres réseaux, en tout cas en s'y mettant à plusieurs. Donc Urgence 10, c'est quelqu'un d'âme en Suisse qu'on a rencontré il y a de longues années et qui a toujours aussi soutenu le groupe, donc on s'est tourné aussi vers lui. Et Araki, là je laisserai peut-être parler à Alex qui le connaît un peu mieux.
Araki, Simon, qui est vers Reims, tout ça. C'est un label qui peut produire des choses très différentes. Du coup, il y a aussi une curiosité. Il a produit quand même pas mal de trucs de métal, mais aussi de folk. Et moi, j'ai fait la connaissance de ce label parce qu'il avait travaillé avec Verdun, qui est un groupe qui est aussi sur notre... propre label ou structure de production qu'on l'appelle, voilà. Et il avait travaillé avec Verdun et il avait travaillé avec un musicien de folk qui s'appelle Wooden Wolf, Et elle avait sorti aussi son dernier disque. Et du coup, en fait, c'était vraiment dans des zones très voisines. Du coup, ça s'est fait tout simplement. On a demandé si ça l'intéressait. Et puis, il a dit oui. Et voilà. Et en fait, en gros, lui, il a un format très simple. C'est une petite aide, mais c'est vrai que ça permet de toucher les... Oui, tout simplement aussi, par exemple, les journalistes qui suivent ce qui se passe avec le label, ils se sont intéressés aussi à notre travail, du coup.
Oui, mais chaque label, comme tu disais, a son réseau et aussi sa zone géographique un petit peu. Donc du coup, ça permet de toucher plus de personnes, d'avoir plusieurs labels. J'ai vu aussi que vous étiez, alors je ne sais pas si c'est pour, pour les autres albums aussi, mais vous étiez en relation avec Kicking Records et avec Marion Noté qui s'occupe de votre booking, je pense, c'est ça ? Vous n'êtes pas en... Parce que moi, j'ai vu passer plusieurs dates depuis... parce que nous, on est en contact avec Kicking Records au niveau de la radio. Et je pense que c'est avec le booking que vous êtes en contact avec Kicking, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. En fait, déjà, on habite à côté. On est vraiment pas loin de chez Kicking Records. Et Marion Notes, en fait, c'est aussi notre... elle travaille pour notre propre label, en fait. Même avant qu'elle travaille pour Kicking, ça fait longtemps qu'on... Et c'est elle qui a fait le lien, et puis c'est vrai que du coup, ils sont venus nous voir en concert, et ils étaient partants de nous donner la main pour les histoires de booking, et pour aussi mettre en avant, tout simplement parce que... pour mettre en avant les dates et tout ça. Et voilà, et ça s'est fait comme ça, et du coup, on se retrouve à être sur Kicking Booking.
Ouais, parce que j'ai vu qu'il y a, c'était il y a 2 ans que tu as sorti un album avec sous le titre de Glabre tout seul.
Ouais.
Et j'ai vu aussi que tu étais sur Kicking Records, enfin sur Kicking Booking plutôt.
Oui, ça a commencé par là. Parce que c'est un album qui a fait un peu un pont, puisque c'est un album plus proche du metal ou du doom en tout cas, entre le folk et le doom. Et ça fait des premiers ponts avec tout aussi. Par exemple, on disait avec Araki, c'est la première fois que je suis allé là. Avec Amaury Sauvé, c'est la première fois où ça s'est fait. En fait, tous les petits ponts qui ont eu sur le disque ont été d'abord faits par Glabre sur ce qui s'est passé. Et voilà. Et du coup, ça fait boule de neige, quoi. Et voilà.
Avant de clôturer cette interview, on va écouter un morceau de vous, du 6e album, Outrage. Et je vais vous laisser choisir un titre.
Concrete Lake.
Ok, parce que moi il y a un titre que j'aime beaucoup.
On aurait dû commencer par ça.
Un titre que j'aime beaucoup, c'est celui que tu as prononcé tout à l'heure en off, on t'entend peut-être pas sur le micro, c'est Gravir des astres.
Oui, celui qui clôture l'album.
C'est, ouais, et en fait c'est parce qu'il y a aussi les voix d'Alex et de Marion qui se mélangent dedans.
Ouais.
Et puis il y a aussi un super clip que j'ai regardé là sur YouTube, et voilà. Mais je vais mettre quand même le morceau que vous avez choisi en commun.
Tu peux en mettre deux si tu veux.
Ouais, je peux en mettre un avant et un après.
Voilà, c'est ça.
Alors avant de clôturer donc de cette interview, je vais rappeler que nous avions le groupe de Skeleton Band. Et avant de vous laisser le mot de la fin, je tenais à remercier Léo de Papa Legba qui vous a trouvé cette date ici à Saint-Paul. Et je vais remercier aussi les gens qui sont ici sur place de nous avoir accueillis et de nous permettre de faire l'interview. Et je vais vous laisser donc terminer cette interview par le mot de la fin.
À table, merci beaucoup et bonne soirée, bonne écoute sur Radio Distorsion 96 FM à Auch ou sur le site assodistorsion.fr. N'hésitez pas à cliquer.
Eh bien, merci bien et bon concert pour ce soir.
Merci beaucoup, merci à toi. I think I'm diving in the dark land. I think I'm diving.
cry, I'm crying for you.